Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal Nawal El Amouchi. Plus d'un million de fidèles musulmans sont arrivés en Arabie Saoudite pour le Hajj, grand pèlerinage qui débute aujourd'hui. Les autorités ont mis en place des mesures de lutte contre les effets néfastes de la chaleur. Nous y revenons plus en détail dans ce journal. En France, suite au meurtre d'Hichem Mirawi, un homme de nationalité tunisienne tué ce samedi par un ressortissant français, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dénonce un crime raciste et barbare. Toujours en France, après les violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit souhaiter la suppression du sursis et l'instauration de peines minimales dans une proposition de loi. Nous l'avons évoqué dans les titres, plus d'un million de fidèles ont commencé aujourd'hui les rituels du grand pèlerinage musulman à la Mecque. Sous des températures atteignant les 40 degrés, les autorités saoudiennes redoublent d'efforts pour éviter une répétition du drame de l'an dernier. Les détails avec Nadia Bencher.
Cette année, le pèlerinage, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, se déroule sous haute surveillance. Les pèlerins ont commencé par le rite du tawaf, tournant autour de la Kaaba au cœur de la grande mosquée de la Mecque. D'autres se sont rendus à Mina, une vallée proche, où ils passeront la nuit dans des tentes climatisées avant de se diriger vers le mont Arafat, étape centrale du Hajj. Environ 1,4 million de fidèles sont attendus pour accomplir cette série de rites quotidiens. L'un des cinq piliers de l'islam. Les autorités saoudiennes ont mis en place des mesures strictes pour lutter contre la chaleur extrême après la tragédie de l'an dernier où plus de 1300 pèlerins avaient péri sous des températures atteignant plus de 51 degrés. Cette année, plus de 40 agences gouvernementales et 250 000 fonctionnaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des pèlerins. Les zones ombragées ont été étendues, des milliers de soignants supplémentaires déployés et plus de 400 points d'eau fraîche installés. Les autorités utilisent également des technologies d'intelligence artificielle et des drones pour surveiller et gérer les foules. Cependant, les autorités rappellent les sanctions sévères pour les pèlerins non autorisés, avec des amendes doublées et une interdiction d'entrer dans le royaume pour 10 ans. Ces mesures visent à éviter les tragédies passées comme la bousculade de 2015 qui avait fait quelque 2300 mort.
À Gaza maintenant, la défense civile a annoncé la mort de 12 personnes ce matin, dont des femmes et des enfants, dans une frappe israélienne près d'une école dans la ville de Khan Younes. Et la Fondation humanitaire de Gaza, organisme très controversé, soutenu par les États-Unis et Israël, ferme aujourd'hui tous ses centres de distribution d'aide dans l'enclave. Les précisions avec Salma Darlaoui.
Oui, Nawel, cette décision intervient après plusieurs scènes chaotiques et meurtrières lors de distributions, marquées par la mort de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants à proximité des centres. Mardi encore, 27 personnes ont été tuées à Rafah, dans le sud de Gaza, lorsque des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule attendant l'aide humanitaire. L'armée israélienne affirme avoir tiré des coups de semonce en direction de suspects, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements. La Fondation humanitaire de Gaza, organisation controversée et au financement opaque, justifie la fermeture par des travaux de rénovation et une réorganisation, annonçant une reprise des distributions dès jeudi. Mais l'ONU et de nombreuses ONG refusent de collaborer avec la Fondation, mettant en cause sa neutralité et craignant qu'elle ne serve des objectifs militaires israéliens. Ce mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Mais ce texte risque de se heurter à un veto américain, malgré la pression internationale et la menace de famine qui pèse sur les 2,4 millions d'habitants de Gaza.
Et Israël a bombardé le sud de la Syrie dans la nuit après des tirs vers Israël dont Damas nie toute responsabilité. La Syrie qui a affirmé qu'elle ne constituerait une menace pour personne dans la région. Le pays a accusé des acteurs cherchant à déstabiliser la région. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que la proposition américaine faite à son pays en vue d'un accord sur le nucléaire allait à l'encontre des intérêts nationaux. Et dans un tout autre volet, pris en étau entre le Pakistan et l'Iran, plus de 3 millions d'Afghans sont sous la menace d'expulsion massive. Alors que les départs forcés s'intensifient, l'ONU tire la sonnette d'alarme face à une crise humanitaire qui s'aggrave. On fait le point avec Arthur Claude Savoie.
En effet, Nawel, depuis le 1er avril, plus de 200 000 Afghans ont été contraints de quitter le Pakistan dans le cadre d'une campagne d'expulsion massive visant les 3 millions d'Afghans vivant dans le pays. Le Pakistan accuse ces migrants d'être liés à des réseaux terroristes ou à la contestation politique après plusieurs mois de tensions à ses frontières avec l'Afghanistan. Le rythme des départs s'est ralenti ces dernières semaines, lui qui avait atteint un pic en avril avec plus de 135 000 retours. Depuis début juin, c'est environ 1500 personnes qui franchissent chaque jour la frontière. Un autre chiffre alarmant, le Pakistan a déjà annulé 800 000 titres de séjour et menace à présent de mettre fin à la protection de 1,3 million de réfugiés. Ces derniers sont pourtant reconnus par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Mais le Pakistan n'est pas le seul pays à intensifier ses expulsions. À l'ouest, l'Iran a donné jusqu'au 6 juillet aux 4 millions d'Afghans en situation irrégulière pour quitter son territoire. L'ONU note une évolution inquiétante. En effet, les renvois concernent désormais des familles entières et non seulement des hommes seuls. Le bilan, au total, depuis fin 2023, plus d'un million d'Afghans ont été expulsés du Pakistan et plus de 2 millions de l'Iran. Plus de la moitié des personnes sont forcées au retour, sont des enfants, selon les agences humanitaires. L'Organisation internationale pour les migrations et le HCR s'inquiètent d'un afflux que l'Afghanistan ne serait pas en capacité de gérer. Le pays dirigé par les talibans et non reconnu par la communauté internationale compte un tiers de sa population en situation d'insécurité alimentaire.
Et dans le reste de l'actualité internationale en Corée du Sud, le nouveau président élu hier, Lee Jae-myung, a promis lors de son discours d'investiture de panser les plaies et de tendre la main à la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Il s'est engagé à renouer le dialogue avec Pyongyang. Et en Côte d'Ivoire, 5 détenus ont été tués hier à la prison de Boaké, importante ville du pays, lors d'une opération de fouille qui a dégénéré en confrontation, selon le procureur de la République. 29 personnes ont été blessées. La Côte d'Ivoire, qui avec 27 000 personnes détenues, a un taux d'occupation des prisons de 297%, parmi les plus élevés au monde. Et on reste en Afrique, au Nigeria, 11 enfants âgés de 4 à 9 ans sont morts hier dans un effondrement sur un site d'extraction de sable dans le nord du pays. Et dans un tout autre volet, Donald Trump poursuit son offensive commerciale. Jusqu'ici taxé à hauteur de 25%, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis vont atteindre 50% dès aujourd'hui. Et pas de solution immédiate à l'horizon dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Kremlin a écarté tout règlement à court terme du conflit armé en Ukraine après de nouveaux pourparlers peu fructueux qui se sont déroulés à Istanbul. Kiev a appelé Washington à sanctionner la Russie. En France maintenant, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est exprimé devant les députés hier au sujet du meurtre de Hichem Mirawi. Pour rappel, cet homme de nationalité tunisienne a été tué samedi par un ressortissant français. Après le crime, le suspect a publié des vidéos racistes et incité à tirer sur des personnes d'origine étrangère. Bruno Retailleau a dénoncé un crime barbare. On l'écoute.
C'est clairement un crime raciste. C'est un crime sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste puisque le PNAT a été saisi. Je veux le dire de la façon la plus nette. Le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. Et précisément, c'est un crime barbare, bien sûr. Et précisément, la France, c'est la République. Et la République ne fait aucune différence entre la couleur de la peau, les origines ou bien les croyances. Croyez-moi, je suis très heureux que le PNAT s'en soit saisi et j'espère que la justice sera intraitable et implacable pour ce qui constitue un crime anti-français. Chaque crime raciste est un crime anti-français.
Merci beaucoup. C'était le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et après les violences en France, en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit souhaiter la suppression du sursis et la mise en place de peines minimales dans une proposition de loi. Il était invité au journal de TF1 hier soir, interrogé par notre confrère Gilles Boulot. On l'écoute.
D'abord, ce qui s'est passé samedi et dimanche, ce sont des désordres publics, à la suite de ce que nous connaissons malheureusement trop. Un match de football qui pourtant était le bonheur de tous les Français et des Parisiens et s'est transformé en enfer pour les Parisiens et pour le reste du pays. Il y a eu à peu près 600 interpellations, si je prends juste l'exemple de la préfecture de police. Il n'y a eu que 230 gardes à vue à la suite de ces 600 interpellations. Le ministère de la Justice, les juges, les procureurs de la République qui regardent ces 230 gardes à vue, pas les 600 interpellations que les policiers n'ont pas mis en garde à vue. Il y a eu aujourd'hui 90 dossiers classés par manque de preuves. Bon, donc il faudra qu'on en discute avec le ministère de l'Intérieur pour le reste. Il y a des juges d'instruction qui ont été saisis et je m'en félicite. 19 pilleurs, les deux magasins pillés sur les Champs-Élysées, Mariono et Footlocker. Un juge d'instruction est saisi.
Présumés, ils n'ont pas été condamnés.
Non, mais ils ont été saisis, ils sont présentés dans le juge d'instruction. Donc la justice là est très ferme. Et il y a d'autres condamnations. Celui qui tire notamment sur le policier, celui qui détruit des biens, voilà, qui ne paraissent pas à la hauteur. Encore une fois, le code pénal est appliqué à la hauteur de la fermeté que nous demandons. Et moi, je voudrais dire que c'est très difficile d'être policier et gendarme. Le préfet de police avec lequel moi j'ai organisé les Jeux Olympiques fait un magnifique travail, Laurent Nunez. Je veux le soutenir et soutenir les policiers et les gendarmes. Mais c'est la société qui doit changer pour être plus ferme de manière générale.
Mais la suppression du sursis, des peines minimales dans les cas qui nous intéressent ce soir, ça demande une nouvelle loi.
Bien sûr.
Et avec qui allez-vous faire voter une loi ?
Ah ben, très rapidement, j'ai fait voter une loi narcotrafic très largement, vous l'avez vu, à l'Assemblée nationale.
Vous ferez appel à tous les partis, au Rassemblement national y compris.
À tout le monde. Moi,
Sans exclusive.
Mais bien sûr, la loi narcotrafic avec le régime carcéral et les prisons de haute sécurité que j'ai mis en place pour le 31 juillet, c'est très concret, a été votée par le RN et par le Parti socialiste.
Et quand allez-vous soumettre un projet ou demander à un parlementaire ami de soumettre une proposition de loi ?
J'ai vu que le Premier ministre avait apporté son soutien, je l'en remercie, à la proposition de peine minimale. Je sais pouvoir compter sur lui et sur son autorité et j'espère que dès la rentrée septembre, nous puissions faire supprimer le sursis, tout ou partie de ce sursis, et mettre en place des peines minimales dans un projet de loi ou dans une proposition de loi.
Et on reste en France, 13 personnes hostiles à la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de 2024 comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour des injures racistes visant l'artiste franco-malienne. Les 13 prévenus, âgés de 20 à 31 ans, sont proches du groupe identitaire Les Natifs, issu du groupuscule Génération Identitaire qui défend la théorie raciste et complotiste du grand remplacement. Et dans un tout autre volet, un homme soupçonné d'avoir brûlé un Coran dans une mosquée de Villeurbanne près de Lyon dans la nuit de dimanche à jeudi a été interpellé hier soir et placé en garde à vue. Il était une figure de la presse française, mais pas seulement. Philippe Labro est mort. Il avait 88 ans. François-Xavier de Calonne, vous revenez sur son parcours.
Oui, vous l'avez dit, il n'était pas seulement une figure de la presse. Philippe Labro, journaliste de presse écrite, ancien vice-président de RTL, était aussi auteur de romans à succès, cinéaste ou encore parolier de chansons. Il en écrira une trentaine, rien que pour Johnny Hallyday. Fasciné par les États-Unis où il a étudié, Philippe Labro tirera de cette expérience la matière de deux romans autobiographiques, L'étudiant étranger, lauréat du prix Interallié en 1986 et Un été dans l'Ouest en 1988. Un roman dans lequel il raconte son voyage et ses rencontres dans l'état du Colorado. De retour en France en 1957, il intègre la radio Europe 1, puis devient grand reporter à Marie-France, puis à France Soir. Il est parallèlement collaborateur du magazine télévisé 5 colonnes à la une. Philippe Labro aura donc aussi été une figure de RTL, dont il sera vice-président en 1992, vice-président directeur général d'Edit Radio RTL en 1996, et vice-président du conseil d'administration en 2000. Philippe Labro a aussi fondé avec Vincent Bolloré la chaîne Direct 8. Il a aussi traversé des moments douloureux, une dépression au tournant des années 2000 qu'il racontera dans son livre « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Parmi ses maîtres, Philippe Labro évoquait Pierre Lazareff pour le journalisme, Jean-Pierre Melville pour le cinéma ou Ernest Hemingway pour l'écriture. Depuis l'annonce de sa disparition, une expression revient sur toutes les lèvres. Philippe Labro était un touche-à-tout aux mille vies.
Et une autre figure est décédée, il s'agit de Nicole Croisy, voix de la chanson française dans les années 70, mais aussi comédienne et danseuse. Elle est morte à l'âge de 88 ans cette nuit, des suites d'une longue maladie selon son agent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 15h pour le Flash Info. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.